Le journal, présenté par Soizic Beau.
Bonjour, bonjour à tous. Moscou accuse les Américains de vouloir dominer seul le monde après le retrait de Donald Trump d'un accord sur les armes nucléaires conclu pendant la guerre froide. Le président américain estime que la Russie n'a pas respecté le traité. À Moscou, on dénonce un pas très dangereux. Les explications de Jean-Didier Revoin, c'est à suivre. Dans ce journal, zoom sur les élections locales en Pologne. Le PiS, le parti conservateur au pouvoir, espère élargir son électorat, notamment dans les campagnes. En France, une trentaine de personnalités appellent l'État à faire de l'enfance une grande cause nationale. Aujourd'hui, deux enfants meurent chaque semaine sous les coups et les tortures. Et puis, à la fin de ce journal, on retrouvera Nabila Hamel avec la face cachée du globe. Les relations États-Unis-Russie se tendent encore un peu plus. Après les soupçons d'ingérence russe dans les élections américaines, Donald Trump a annoncé qu'il se retirait d'un accord nucléaire conclu avec Moscou pendant la guerre froide en 87. Le traité abolissait l'usage de toute une série de missiles. Selon le président américain, la Russie ne l'a pas respecté. Moscou, de son côté, proteste. Les précisions de Jean-Didier Revoin.
Ce retrait est motivé par le rêve des Américains de dominer seul le monde, a fait savoir une source au ministère russe des Affaires étrangères. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la politique américaine de retrait des accords internationaux légaux qui lui donne autant de responsabilités qu'à ses partenaires et fragilise ainsi l'idée de sa propre exception, a poursuivi cette source. L'administration américaine justifie sa décision par le fait que la Russie a déployé des missiles 9M729 d'une portée qui serait, selon Washington, supérieure à 500 km, ce qui constitue une violation du traité qui proscrit les armes nucléaires de portée intermédiaire. Un traité qui date de 1987 et qui avait permis de mettre un terme à la crise, né du déploiement de missiles SS-20 en Europe par les soviétiques dans les années 80. Leonid Sloutsky, président du comité des affaires étrangères de la Douma, estime pour sa part que les États-Unis viennent de placer une énorme mine dans le processus de désarmement de la planète, soulignant que la Russie n'avait pas violé les obligations lui incombant en vertu de ce traité. À ses yeux, les accusations répétées contre la Russie ne constituent qu'une couverture pour justifier les actions américaines visant à détruire ce traité, mais Leonid Sloutsky n'exclut pas non plus qu'il s'agisse d'une manœuvre politique. Cette annonce intervient en effet à quelques heures de l'arrivée à Moscou de John Bolton, conseiller américain à la sécurité, et pourrait donc servir de moyen de pression dans les négociations qui s'annoncent.
J'en revois un pour France Culture. De nouvelles révélations sur les circonstances de la mort de Jamal Khashoggi le 2 octobre dernier à Istanbul. Le journaliste saoudien aurait succombé à une clé d'étranglement, selon une source au placé citée par l'AFP, des agents devaient le convaincre de rentrer au royaume, mais Khashoggi aurait refusé. Les agents l'auraient alors tué accidentellement. Son corps aurait été ensuite, je cite, confié à un coopérateur local chargé de s'en débarrasser. Une version qui diffère des premières explications de Riyad, qui n'ont d'ailleurs pas convaincu la communauté internationale. L'Union européenne a demandé une enquête plus approfondie et transparente. Test grandeur nature pour l'exécutif en Pologne. Les Polonais élisent leurs maires et conseillers régionaux. Aujourd'hui, première étape d'un marathon électoral. 4 élections en 20 mois seulement, avec en ligne de mire les législatives l'année prochaine et la présidentielle en 2020. Le PiS, le parti conservateur au pouvoir, est bien placé. Dans les sondages, il va tenter de remporter plusieurs grandes villes et régions qu'il n'a pas encore aujourd'hui. Depuis 2015, il continue de mener une politique très controversée dans le pays, mais aussi dans l'Union européenne. À Varsovie, les explications de Damien Simonard.
Bien qu'il ait la majorité absolue au Parlement et un chef de l'État issu de son parti, le PiS ne gouverne que dans une seule des 16 régions polonaises. À moins d'un score catastrophique, peu probable, le parti de Jarosław Kaczyński n'a donc pas grand-chose à perdre lors de ce scrutin. Au contraire, il espère élargir son électorat, notamment dans les campagnes tenues jusqu'alors par le parti paysan. Malgré les pressions de l'Union européenne et le déclenchement de l'article 7 du traité européen pour menace à l'état de droit, une majorité de Polonais continue de soutenir le pouvoir populiste conservateur. Une victoire lors des élections municipales et régionales le placerait dans une situation idéale avant les législatives l'année prochaine. Les mairies de Varsovie et Cracovie, tenues par l'opposition mais où les candidats du PiS ont des chances réelles, sont un enjeu symbolique des élections, tout comme le résultat des libéraux. Les deux principaux partis d'opposition, la Plateforme civique et le Parti pour la modernité, font alliance contre le PiS et présentent des listes communes, un scénario qui pourrait se répéter lors des législatives en cas de succès ce dimanche. Enfin, le taux de participation est une des clés de ces élections. Il y a 3 ans, c'est en partie la forte abstention qui a propulsé le PiS au pouvoir.
Autre scrutin au Brésil, cette fois à moins d'une semaine du second tour des élections présidentielles, le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro est en tête. Le dernier sondage le crédite de 59%. 39%. Son rival du Parti des Travailleurs, Fernando Haddad, obtiendrait lui 41%. Jair Bolsonaro, soutenu notamment par des joueurs de foot brésiliens, Ronaldinho Gaúcho, Cafu, Rivaldo, Felipe Melo ou encore Luca Moura, n'ont pas hésité à afficher leurs préférences sur les réseaux sociaux. Une position radicale qui n'est pas toujours très appréciée chez les supporters, Anne Vigna.
L'image de Ronaldinho Gaúcho avec un maillot portant le numéro 17, le numéro du candidat d'extrême droite, n'a guère surpris au Brésil. L'ancien joueur du PSG et du Barça a en effet rejoint un parti politique évangélique qui soutient Bolsonaro. Mais il a été suivi dans cette voie par une dizaine d'autres joueurs stars au Brésil. Un engagement qui a de l'influence pour Roger, supporter du Vasco à Rio, alors que le football au Brésil reste marqué par la lutte contre la dictature.
Isso tem influência, jogador.
Cela a de l'influence, car les joueurs sont des citoyens populaires. Alors oui, ils ont de l'influence, sauf pour les personnes qui ont leurs propres opinions. Nous avons eu dans le passé plusieurs joueurs qui ont lutté contre la dictature. Alors ceux qui soutiennent aujourd'hui la dictature, je ne pense pas qu'ils sachent la vérité sur la dictature.
Dans les manifestations contre l'extrême droite, on voit la présence des supporters. Les quatre grands clubs de Rio sont présents sous le mot « démocratie ».
Nous avons ici à Rio de Janeiro plusieurs collectifs de supporters qui sont de gauche et progressistes. Il y a ce groupe des supporters pour la démocratie qui essaye d'agir et de défendre la démocratie. Ce collectif est sympa, je trouve, parce qu'il rassemble des rivaux sur le terrain, mais dans un objectif commun qui est de lutter pour la démocratie.
Comme le reste du pays, le monde du football est très divisé pour cette élection et les slogans politiques envahissent de plus en plus les tribunes, malgré les consignes des clubs qui veulent rester neutres.
En France, une trentaine d'associations dont l'Inter-LGBT et SOS Homophobie sont dans la rue cet après-midi. Elles veulent dénoncer les agressions homophobes et anti-LGBT en hausse de 15% sur un an dans la capitale, qu'elles soient suivies ou non d'une plainte. La manifestation partira à 17h de la place de la République à Paris. Les suites de l'affaire Benalla, le couple de jeunes molestés par l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron le 1er mai dernier, place de la Contrescarpe à Paris, aurait fait antidater un certificat médical, révélation du JDD ce matin. Le but, alourdir les charges pesant sur Alexandre Benalla, déjà mis en examen pour violence ayant entraîné une incapacité de travail. Selon le certificat, il aurait eu 6 jours d'ITT. Sauf que selon le journal, le médecin généraliste du jeune manifestant aurait avoué aux enquêteurs avoir rédigé le certificat bien après les faits. Il faut faire de la protection de l'enfance une grande cause nationale. L'appel d'une trentaine de personnalités dans une tribune publiée dans le journal du dimanche aujourd'hui est adressé au président de la République. Les signataires rappellent que 40% des SDF de moins de 25 ans sont issus de l'aide sociale à l'enfance, anciennement la DAS. Antoine Dulin, le vice-président du Conseil économique et social.
La problématique de la jeunesse et des jeunes qui sont en rupture familiale ou sans soutien familial est une problématique pour l'ensemble de notre pays et un angle mort des politiques publiques. On a un revenu de solidarité active qui commence à partir de 25 ans et entre 18 et 25 ans, on dit que c'est aux familles d'accompagner les enfants jusqu'à la fin des études ou à l'obtention du premier emploi. Or, quand il n'y a pas de soutien familial, les familles ne peuvent pas accompagner l'insertion sociale et professionnelle des enfants. Et c'est encore plus criant, d'où cette dimension de double peine pour les jeunes de l'aide sociale à l'enfance, parce que il y a complètement une rupture avec leurs parents. Et à 18 ans, comme il n'y a pas d'obligation pour les départements de les accompagner, certains départements vont arrêter tout accompagnement et ne plus leur fournir de ressources. Résultat, on est face à un gâchis éducatif. Il y a un accompagnement long qui a été donné jusqu'à 18 ans dans des foyers, dans des familles d'accueil. Et à 18 ans, tout s'arrête. Et un gâchis économique aussi, parce que il y a beaucoup d'argent qui ont été investis pour accompagner ce jeune jusqu'à 18 ans. Là encore, il y a une rupture que vit le jeune alors qu'il est sans ressources du côté de sa famille.
Antoine Dulin, le vice-président du Conseil économique et social, il était joint par Théo Conscience et une pétition contre les violences faites aux enfants a été mise en ligne sur le site change.org. Elle a déjà été signée par plus de 500 personnes. Midi 39 sur France Culture, c'est l'heure de retrouver la face cachée du globe avec vous, Nabila Hamel. Bonjour Nabila.
Bonjour. Un acte de cruauté abjecte, c'est ainsi que la Croix-Rouge internationale qualifie le meurtre mardi d'une deuxième professionnelle de la santé par une faction de Boko Haram affiliée au groupe État islamique. Awa Liman faisait partie des 3 humanitaires nigérianes du CICR et de l'UNICEF qui avaient été enlevées en même temps qu'une lycéenne par Boko Haram en mars dernier dans l'extrême est du Nigeria. Le Kosovo tient à se doter d'une armée nationale de 5000 hommes. Un projet de loi en ce sens a été voté jeudi en première lecture. La minorité serbe, soutenue par Belgrade, le juge illégal. L'OTAN, qui assure la sécurité de ce pays des Balkans, s'était elle aussi déjà opposée à la mise en place d'une armée kosovare si elle n'était pas précédée d'une modification de la constitution approuvée par la minorité serbe. Indépendant depuis 2008, le Kosovo, à majorité albanaise, est reconnu par une centaine d'États, mais pas par la Serbie, ni par la Russie, ni par ses membres de l'Union européenne. S'affranchir de la Russie et assurer la sécurité de ses approvisionnements en gaz naturel liquéfié, c'est l'objectif que la Pologne s'est assigné à l'horizon 2022. Elle a signé mercredi un contrat pour la livraison annuelle de 2 millions de tonnes de GNL pendant 20 ans avec une société américaine, Varsovie, se réjouit d'un gaz qui serait 20% moins cher que le gaz russe. C'est le premier contrat de cette importance en Europe centrale. Le gouvernement conservateur polonais compte également se tourner vers le gaz liquéfié norvégien et du Qatar. Si les élections locales du 13 octobre en Côte d'Ivoire n'ont pas connu de participation massive, autour de 36% pour les municipales, de 46% pour les régionales, elles ont surtout servi de test pour les principaux partis en lice à 2 ans du grand rendez-vous de la présidentielle. Et Frédéric Gara, vous avez suivi pour RFI ce scrutin. Il y a certainement quelques enseignements à en tirer aujourd'hui, surtout après les contestations et violences post-électorales de samedi dernier dans certaines localités.
Ces élections locales, c'était effectivement un test, une répétition grandeur nature. Et si l'on en juge par son déroulement et surtout ses résultats, cela augure mal de ce qui pourrait se passer en 2020 à l'élection présidentielle. Durant la campagne, les candidats dans plusieurs circonscriptions clés d'Abidjan ou d'ailleurs n'ont eu de cesse de s'invectiver. On a même parfois assisté à des discours identitaires entre communautés dans ce pays qui compte près de 60 ethnies. Par ailleurs, ce scrutin, qui devait être pacifié, a donné lieu à 5 morts, 5 victimes d'affrontements entre militants ou bien avec la police. Enfin, ces élections ont consacré la rupture entre le RHDP du président Alassane Ouattara et le PDCI d'Henri Colombédier. Ces deux dirigeants, qui se sont unis pour battre Laurent Gbagbo en 2010, sont maintenant à couteau tiré. Et les deux camps s'accusent réciproquement de fraude dans les urnes. Si les choses se sont un peu apaisées, le divorce est bel et bien consommé entre les membres de la majorité présidentielle et on assiste à un rapprochement stratégique du PDCI avec le FPI de Gbagbo, un FPI qui boycotte les élections depuis 8 ans. Dès lors, on s'interroge sur qui pourrait postuler à la succession d'Alassane Ouattara en 2020. Personne n'ose croire qu'Henri Colombédier, 84 ans, pourrait se présenter à la présidentielle dans 2 ans. Mais en matière de politique ivoirienne, il faut se méfier des certitudes. Il y a encore quelques semaines, tout le monde pensait que Ouattara et Bédier étaient les meilleurs amis du monde.
Les membres de la société civile maltaise ont de nouveau rendu hommage mercredi soir à Daphne Caruana Galizia. La journaliste maltaise d'investigation a été tuée le 16 octobre 2017 dans l'explosion de sa voiture piégée. Un an après, où en est-on? 3 suspects sont sous les verrous, mais les commanditaires, eux, n'ont toujours pas été identifiés. C'est pourquoi une délégation de Reporters sans frontières, reçue pour la première fois cette semaine par les autorités maltaises, réclame une enquête publique indépendante. Pauline Adès-Mével, de RSF.
Tant que des pas n'auront pas été faits dans cette direction, nous aurons le sentiment qu'il y a une impunité à Malte qui entoure l'assassinat de la journaliste. Donc nous demandons et nous soutenons la famille dans sa demande d'une enquête publique qui permettrait déjà dans un premier temps de savoir si le meurtre aurait pu être évité. Il y avait suffisamment de signes de harcèlement, d'attaque verbale, d'attaque de manière générale qui laissaient entendre que la journaliste était en danger, que sa sécurité n'était pas assurée. Et c'est déjà, dans un premier temps, cette enquête permettrait d'avoir quelques éléments.
Est-ce que la société maltaise est toujours mobilisée sur cette affaire?
Il y a eu énormément de moments de commémoration depuis 3 ou 4 jours. Il y a des moments de commémoration aussi tous les 16 du mois. Il y a une foule de personnes qui sont venues exprès pour les 1 an, pour montrer aussi au gouvernement que quand bien même l'enquête n'avance pas, la société civile et les organisations de défense de la liberté de la presse continuent d'être présentes et surtout ne lâchent pas.
Le gouvernement espagnol assure qu'il ne cédera pas au maître chanteur. De qui, de quoi s'agit-il? D'un ancien commissaire de police qui avait pendant des décennies appris à passer inaperçu, à prendre plusieurs identités et surtout à enregistrer à leur insu des élus, magistrats, hommes d'affaires et policiers. Il a été certes démasqué et mis en prison il y a presque un an, mais ces conversations et enregistrements sont devenus compromettants, y compris pour des responsables politiques de gauche et de droite. C'est ce que l'Espagne appelle l'affaire des égouts de l'État. À dimanche prochain.
La face cachée du globe s'est à retrouver sur franceculture.fr. Le temps de ce dimanche, le soleil brillera encore sur une grande partie du pays. Côté température, c'est le grand écart, 2 à 16 degrés du nord au sud et 17 à 27 cet après-midi.